voilà. J'ai participé.
Et bien, place à ton baratek.
Bon, voilà, j'ai essayé de ce soit pas trop pénible. Juste d'abord, vous précisez que moi, mon terrain, c'est plutôt les violences faites aux femmes. J'interviens davantage sur ces questions-là, sur le viol en particulier. Donc, ça fait quand même quelques années que je suis pas revenue sur les questions de genre, plus en termes de concept et donc au-delà des violences. Donc, j'espère que vous serez assez indulgents. J'ai un peu dû revenir en arrière dans ma formation. Mais du coup, ce qui m'a été demandé, d'ailleurs, du coup, merci de m'avoir invité, c'était d'éclaircir un petit peu l'évolution des différentes approches sociologiques des catégories de sexe pour voir un petit peu comment on en était arrivé à la centralité du concept de genre pour appréhender un peu toutes ces questions. Du coup, je vais essayer de vous dresser un petit peu, hein, de balayer un petit peu les différentes approches du déterminisme biologique jusqu'au primat du genre qui sur le sexe qui domine un peu plus actuellement. Je vais essayer de tenir une demi-heure. Du coup, peut-être vous me poserez les questions après, parce que forcément, je vais vous présenter les courants de façon vraiment très succincte. Donc évidemment, ça amène plein de questions. Il y a eu plein de critiques de toutes ces approches, mais là, moi, je vais juste un petit peu laisser un tableau vite fait de tout ça. Juste du coup, pour commencer, vous dire que les clivages qui traversent un peu les sciences sociales recoupent un peu les clivages qui traversent les principaux courants militants et puis aussi les politiques d'égalité qui en découlent. Et tous ces clivages tournent donc sur l'appréhension des notions de sexe et de genre. Donc en fait, si on part du sens commun, qui est encore très prégnant aujourd'hui, le sexe renvoie plutôt à des spécificités anatomiques. Et le genre ou le sexe social, il est le plus souvent utilisé pour parler donc de la dimension culturelle des différences de sexe qui vont être définies, qui vont apparaître donc dans la dimension. Excusez-moi. Voilà. Donc dans l'éducation et tout ça, dans les différents comportements. Donc en fait, dans le discours spontané. On établit en fait une relation de causalité linéaire entre les deux termes, entre le sexe et le genre. On dit un peu dans ce discours spontané que ce qui relève du domaine biologique va déterminer les différences culturelles qui sont constatées entre les hommes et les femmes. Et donc dans cette logique du déterminisme biologique, on part de l'idée qu'il existe vraiment deux sexes nettement différenciés d'un point de vue génétique, anatomique, physiologique, etc. et que les comportements sociaux qui vont en découler vont être directement associés et issus de ces comportements, ces différences biologiques. En fait, ça n'a pas toujours été le cas. On voit par exemple avec Thomas Laker qui a écrit en 92 La fabrique du sexe, essai sur le corps et le genre en Occident, que cette vision dichotomique des sexes est relativement récente. Relativement, en fait, ça a trois siècles. Mais avant, en fait, il explique, et je le cite, que, en fait, dans l'Antiquité, Aristote, par exemple, par la définition de l'ordre des êtres, et Galien, par la définition du corps anatomique, fondent le modèle du sexe unique, qui sera dominant, en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, et dans lequel le genre définit le sexe. Les hommes et les femmes sont rangés suivant leur degré de perfection métaphysique, le long d'un axe dont le sommet est occupé par l'homme. Au plan anatomique, nulle différence d'organes entre hommes et femmes, sinon que ceux des femmes sont à l'intérieur du corps et non pas à l'extérieur. Voilà, c'est juste le modèle de l'Antiquité. Or, bien sûr, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est le deuxième modèle de la différence des sexes, donc le modèle selon lequel le sexe biologique détermine le genre, qui domine dans la pensée occidentale. Donc, fondé sur une bicatégorisation fondamentale et naturalisée, entre les sexes qui traverseraient toute la société humaine. Donc évidemment, tout ça, ça a été appuyé par un tas de recherches scientifiques qui vont mesurer les différences naturelles entre les sexes et qui vont ensuite utiliser ces repères pour justifier les places différentes occupées par les hommes et les femmes. Donc on va avoir, par exemple, des recherches sur la taille du cerveau, l'influence des hormones, la différence de force physique, etc., pour ensuite justifier une incapacité naturelle des femmes à exercer telle ou telle fonction sociale, et donc, corollairement, des aptitudes naturelles à exercer d'autres fonctions, quoi. Donc, heureusement, les manifestations radicales de ce déterminisme, elles se sont largement estompées, mais c'est encore cette dichotomie qui domine dans le sens commun, dans la plupart des politiques publiques, et on va le voir dans un certain nombre de recherches en sciences sociales. Donc, juste pour vous donner un exemple de ça, par exemple, la variable sexe en sociologie, dans l'INSEE et tout ça, elle est toujours utilisée, elle est depuis très longtemps utilisée. De même que l'âge ou les catégories socio-professionnelles, il y a toujours ça un petit peu dans les études statistiques. Mais contrairement à l'âge, en fait, la variable sexe, elle a peu de conceptualisation en amont, c'est-à-dire qu'elle n'est pas elle n'a pas impliqué de construction sociologique en tant que variable, alors que la variable âge, elle a supposé un tas de conceptualisations comme le concept de jeunesse, de vieillesse, d'enfance, de troisième âge. Vous voyez, vraiment des constructions proprement sociologiques. Alors que la variable sexe, elle est vraiment calée sur le sexe biologique, calée donc finalement aussi sur le sens commun, mais elle n'a pas fait l'objet d'une construction sociologique en amont. Et donc, on n'est pas de façon logique. On a comme ça des analyses statistiques qui vont être assez figées par rapport à la position des hommes et des femmes, puisque en amont, on ne se sera pas demandé qu'est-ce que ça veut dire de cliver les personnes suivant ce critère biologique, en fait, et pas suivant le critère de genre, enfin un critère purement social d'autodéfinition, par exemple. Voilà, donc on voit bien, voilà pour ce qui est du déterminisme biologique, de ce que ça peut avoir d'essentialisme. On va voir dans la même veine un peu un tas d'analyses sociologiques qui vont parler de conditions féminines. Alors, dans les années 60-70, il va y avoir du coup plus de visibilité sur les comportements des femmes dans différents champs du social. Donc on va décrire utilement les situations concrètes dans lesquelles les femmes elles vont se retrouver. Mais le problème des analyses en termes de conditions féminines, c'est que on va toujours étudier la situation des femmes, la condition des femmes, en tant que place différente. On va considérer qu'elles ont une attitude différente par rapport à telle ou telle question, mais elles vont rester seules dans cette différence. C'est-à-dire qu'on va toujours confirmer cette catégorie de sexe en correspondance avec le sexe biologique sans interroger cette association. Et donc pour que ça vous parle, le fait de juste décrire les femmes comme femmes sans se poser la question de cette construction, ça va notamment orienter les politiques publiques d'égalité dans la différence. C'est-à-dire que par exemple, dans le domaine de l'insertion professionnelle, on va avoir dans les programmes d'insertion professionnelle des termes comme rattrapage, où on va se rendre compte que on va donc proposer des formations pour que les femmes elles s'intègrent dans le marché de l'emploi, comme si le fait d'être une femme c'était un handicap, et donc un handicap qu'il fallait rattraper, d'accord ? Et donc on va demander aux femmes de faire des efforts entre guillemets, mais on va pas proposer aux employeurs d'interroger leur représentation vis-à-vis des femmes ou de faire un effort de prise de conscience. Voilà. Donc voilà, juste pour dire le fait de proposer des analyses en termes de conditions féminines, ça oriente vers ce type de politique publique qui donc limite un petit peu le changement. Ensuite, toujours dans une forme de déterminisme, même si les choses progressent, on a un certain nombre d'approches dites fonctionnalistes qui vont la situer dans une approche du sexe en termes de rôle de sexe. C'est les analyses complémentaristes, c'est-à-dire qu'on va considérer que les hommes et les femmes, enfin les rôles de sexe sont construits socialement, ça va pas de soi, la socialisation secondaire joue un rôle dans tout ça, ça se joue pas de la même façon dans les différentes sociétés. Mais on va rester dans cette dichotomie où les hommes et les femmes sont complémentaires et ça ne s'échange pas. Alors la base de tout ça, un petit peu, enfin qui heureusement a quand même été un peu dépassée, c'est la psychosociologie américaine des années 60, où on va avoir Talcott Persons qui étudie, c'est lui qui théorise le rôle des sexes et qui va dire que qui va démontrer que les hommes occupent la fonction, le rôle instrumental dans la famille, et les femmes, elles vont occuper le rôle expressif. Et donc, en gros, pour que la famille joue efficacement son rôle social et perdure comme structure de base de la société, les hommes, en gros, travaillent et les femmes se consacrent à la vie domestique, familiale, gèrent l'affect, etc. Mais il n'est pas envisagé ni d'inversion, ni de questionnement sur... c'est toujours l'association. Pourquoi ce serait les femmes qui font ça? Et est-ce que ça veut bien dire quelque chose d'être dans cette binarité? Donc on voit bien qu'il n'y a qu'un pas pour dire que naturellement les femmes vont dire ça. Bon, en même temps, là, on a déjà quand même l'introduction que c'est construit socialement, mais on n'envisage pas encore le changement. Dans cette approche fonctionnaliste, par exemple, on peut un petit peu en voir une application concrète dans les politiques urbaines et l'architecture immobilière dans les zones résidentielles, par exemple. Où, je vous invite à lire Jacqueline Coutras ou Isabelle Coutan, qui ont travaillé sur le rapport à l'espace en fonction du genre. On voit bien en fait que la construction de l'habitat, vous voyez, les habitats résidentiels avec vraiment la maison pour un couple, deux enfants, un chien, un petit jardin, toutes les maisons un petit peu pareilles, ben dans ces quartiers, souvent très près de la maison, il y a la crèche, il va y avoir le commerce pour tout ce qui concerne la vie familiale. Souvent le travail de la femme sera dans cette proximité géographique, et puis l'école, etc. Et donc ce qu'on se rend compte quand on étudie le rapport à l'espace urbain des femmes et des hommes, enfin elle a montré ça, c'est que les femmes, elles ont en fait un rapport à l'espace très détaillé mais limité dans l'espace, donc limité au quartier, alors que les hommes, ils vont travailler dans le centre-ville. Dans le centre-ville, c'est aussi là qu'il y aura, en règle générale, les activités culturelles, etc. Et donc, les hommes, dans ces études, on voit qu'ils ont une vision beaucoup plus large, mais moins détaillée de l'espace urbain. Et donc, là-dessus, l'architecture urbaine, elle s'inspire donc d'une logique fonctionnaliste et complémentaire. Donc, on voit que ça a des incidences, alors que ça pourrait en être autrement. Il y a d'autres politiques publiques qui, par exemple, pensent dans la politique de transport, dans la concordance des temps de transport et des temps d'éducation des enfants, etc. Un fonctionnement qui favorise l'accès des femmes à la mobilité et donc à l'espace urbain. Et puis, par exemple, des logiques en entreprise où il va y avoir un système de garde dans l'entreprise. Enfin, voilà, il y a juste comme ça, dans certains pays... Il y a comme ça des politiques qui permettent de modifier, d'avoir d'autres orientations qui jouent dans nos pratiques quotidiennes et dans les relations hommes-femmes. Donc voilà un petit peu pour la base des approches sociologiques qui vont continuer un petit peu de figer cette dichotomie entre hommes et femmes envisager toujours de façon binaire, et puis cette approche sans envisager tellement en fait la hiérarchie qui peut y avoir entre les rapports sociaux, entre le système tel qu'il est vécu par les hommes et par les femmes. Donc en quoi c'est hiérarchique, en quoi ça peut être antagoniste, etc. Et là, du coup, c'est à ce niveau là que les approches féministes, elles vont introduire une certaine rupture en élaborant d'un point de vue théorique le système social de sexe. Donc la pionnière là-dedans, c'est Christine Delphi. Du coup, je suis pas très étonnée que tu aies envie de développer ça, parce que c'est vraiment quand même une étape séminale un peu dans la réflexion sociologique des catégories de sexe. En fait, elle va donc cette étape, elle va être marquée par un texte qui est publié dans la revue Partisan en 1970 qui s'appelle L'ennemi principal. En fait, là, le bouquin, il compile un peu un tas de textes qu'elle a écrit dans le passé. Et donc, effectivement, elle utilise des analyses marxistes qu'elle va critiquer pour essayer de démontrer au milieu anticapitaliste et à tout ce courant d'analyse qu'ils ne tiennent pas assez compte de l'oppression de l'ensemble des femmes dans les sociétés avancées. Et donc, d'après elle, donc dans une approche quand même matérialiste, elle va essayer d'établir une analogie, en fait, entre le système capitaliste marxiste et le système d'oppression patriarcale, donc, qui s'applique à la classe des femmes, entre guillemets. Pour elle, donc, l'ennemi principal des femmes, c'est pas le capitalisme ni la classe bourgeoise, mais c'est avant tout la classe des hommes, en tant que construction sociale, hein. vous avez bien compris que du coup, pour moi, c'était pas collé au sexe biologique des gens, donc je ne présuppose pas qu'il y aurait des oppresseurs ici et des victimes de l'autre, forcément. Donc, voilà, pour elle, ce serait, c'est la classe des hommes qui oppressent les femmes en leur extorquant du travail domestique gratuit, à travers, donc, la cellule familiale. Pour elle, en fait, donc voilà, on est en 70, c'est quelque chose qui était absolument invisibilisé, hein, le travail domestique des femmes. Elle explique donc que les tâches domestiques qui sont effectuées gratuitement par les femmes dans le cadre du mariage, elles ont en fait une réelle valeur d'échange, et que si les femmes ne les accomplissaient pas, si elles s'occupaient pas du linge, de l'alimentation, de l'entretien de la maison, de l'éducation des enfants, etc., il faudrait bien que les hommes achètent ces services sur le marché, et donc voilà, ça a une valeur marchande. Ça peut paraître complètement acquis aujourd'hui, mais en fait, c'est à la suite de ça qu'on va réellement développer une reconnaissance financière, hein, des tâches domestiques accomplies par les femmes, et de tout du fait aussi que les femmes s'occupent très majoritairement des personnes dépendantes, par exemple. Enfin voilà, tout ça, ça a demandé un certain nombre de luttes et puis de construction de pensée. Elle explique aussi que comme le contrat de travail, le contrat de mariage, il institutionnalise un rapport d'exploitation entre deux groupes dont les intérêts vont être opposés. Objectivement opposés. Puisque donc pas de rémunération et en même temps un tas de prestations qui sont effectuées. Pas de limite dans le temps non plus, etc. Elle explique enfin que même si le capitalisme et le patriarcat constituent deux systèmes d'exploitation qui sont quand même historiquement distincts l'un de l'autre, et donc qui, pour elle, implique aussi des résistances collectives qui sont un peu autonomes, il y a quand même une complicité entre les deux. C'est l'un s'appuie sur l'autre. En fait, pourquoi ce système perdure d'après elle? Pourquoi tout ça fonctionne et fait système? Elle dit qu'en fait, c'est la différence de salaire qui va être versée aux hommes et aux femmes sur le marché du travail, leur surexploitation capitaliste, finalement, la surexploitation capitaliste la force de travail des femmes, va permettre que le patriarcat perdure, puisque comme les femmes vont être d'emblée dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, elles vont être en difficulté pour être autonomes matériellement, finalement, elles vont pas pouvoir se soustraire à l'injonction patriarcale du mariage pour échapper à cette exploitation gratuite. Bon, voilà, on est aussi dans un certain contexte. Cela étant, encore aujourd'hui, la production domestique de base, elle est assurée à 80% par les femmes. Vous regardez n'importe quelle étude sociologique, c'est encore le cas. Même si là, effectivement, on achète certains services. Donc le temps, les femmes achètent aussi certains services. Donc le temps accompli pour les tâches ménagères n'est pas forcément le même, par exemple. Mais n'empêche qu'on retrouve toujours ce déséquilibre et cette hiérarchie. Donc ça a quand même un sens. Juste du coup un peu dans la même continuité, enfin voilà, c'est ce qui a un petit peu introduit la rupture, amené un petit peu une pensée plus systématique, une appréhension en termes de système des rapports entre hommes et femmes. Colette Guillaumin qui vient elle parler du sexage. Alors je parle volontairement d'auteurs qui datent un peu parce que voilà, j'ai l'impression que dans la nouvelle génération militante, on oublie un peu que en fait, dans les années 70, il y a déjà des choses qui ont été pas mal pensées. Et notamment, elle, par exemple, ça va être une des premières à penser l'intériorisation de la domination et à articuler la domination de classe, de sexe et de race de façon assez fine, quoi. Hein, et d'envisager ça comme dans une logique de pouvoir, etc. Donc elle, ses articles, ses travaux, ils sont publiés dès 78, Colette Guillaumin. Elle, l'apport qu'elle a, ça va être de dire que il n'y a pas qu'une appropriation, une exploitation matérielle des femmes à travers la famille. Il y a aussi une exploitation entre guillemets mentale. Il y a un versant idéologique à tout ça. Pour elle, l'appropriation des femmes par les hommes, elle existe sur un plan matériel et aussi idéal. C'est-à-dire que cet aspect idéal, c'est-à-dire juste le fait d'intérioriser la domination, il va se produire par la naturalisation des différences. C'est-à-dire que elle parle aussi de classe des hommes qui vont valoriser en fait les activités féminines, les transformer en qualités naturelles communes à l'ensemble des femmes. Ça d'un côté, et d'un autre côté, les femmes vont intérioriser le fait que c'est des qualités, que c'est une qualité et que pour être une femme bien, il faut s'occuper, voilà, s'occuper de la maison, être confinée à l'intérieur et être cantonnée au rôle familial. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que pour elle, le couple hétérosexuel, la cellule familiale, en tout cas plutôt le couple hétérosexuel et le mariage, c'est juste un aspect, c'est juste une forme interindividuelle d'un système plus large. Mais en réalité, toutes les femmes, même non mariées, sont imprégnées de ce système qu'on va pouvoir retrouver dans le rôle qui sera attribué aux lignées de sœurs, etc., aux grands-mères. Enfin, ça dépasse et aux femmes dans différents espaces sociaux, donc bien sûr dans le travail, etc. Ça dépasse la sphère du mariage chez elles. Bon, voilà, on est un peu dans les prémices du coup pour penser les rapports sociaux de sexe qui vont être à l'origine de la conceptualisation du genre comme système de relations. Et donc les approches en termes de rapports sociaux de sexe, elles vont introduire la nature davantage transversale de ces rapports dans tous les domaines du social. Elles vont un petit peu aller plus loin là-dedans. Et puis surtout, surtout l'apport qu'il va y avoir avec la théorie en termes de rapports sociaux de sexe, c'est le fait que ça fonctionne de façon simultanée. C'est le fait que les rapports sociaux de sexe, de classe et de race, consubstantiels, ils se nourrissent l'un de l'autre, vraiment. Ils sont faits de la même substance. Il ne s'agit pas de dominations qui vont s'accumuler, mais bien qui jouent l'une sur l'autre pour créer des formes de domination spécifiques. C'est ça qui sera intéressant. Et donc, l'analyse en termes de rapports sociaux de sexe que je vais vous définir très précisément juste là après, juste vous dire que c'est la base de propositions politiques d'égalité qui sont souvent les plus progressistes et qui malheureusement sont encore minoritaires, mais c'est à partir de là qu'on va penser des formes d'égalité réelles et substantielles, pas seulement une égalité des droits, quoi, pas seulement une égalité formelle, mais qu'on va par exemple proposer, comme je vous disais tout à l'heure là dans les programmes d'insertion, il y a des programmes d'insertion professionnelle ou de lever des obstacles, etc. Bon, voilà, on est encore là dans une logique de handicap. En fait, il y a des programmes, je pense à une asso à Lille qui bosse vachement sur le thème des femmes et du travail et qui, elles, travaillent vachement auprès des employeurs, en fait. Et donc, à la fois, elles vont valoriser ce courant-là, il va valoriser le fait qu'il puisse y avoir des discriminations positives pour que les femmes puissent accéder à l'emploi et qu'on tienne compte des différences, des difficultés spécifiques des femmes. Mais en même temps, on va pas en rester là, on va travailler à un changement des représentations, y compris, donc, on va aussi parler aux dominants, en fait. On va aussi proposer aux dominants de questionner tout ça. Et puis, on va voir aussi en quoi ça les concerne. Donc, qu'est-ce que ça a de spécifique, les rapports sociaux de sexe? Où on en est, finalement? C'est, pour faire le point dans tout ça, ça va être de dire que la notion de rapports sociaux de sexe, il s'agit pas seulement d'un lien social, il s'agit vraiment d'envisager relationnellement ce qui se passe entre les catégories d'hommes et de femmes, de voir qu'ils sont antagonistes. Donc ces deux catégories sociales, elles sont antagonistes, elles ont des intérêts différents. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de possibilité de complicité ou d'amour au niveau individuel. Hein, c'est bien ces catégories qui sont antagonistes. Elles sont structurantes pour l'ensemble du champ social, transversales à la totalité du champ social, donc dans toutes les sphères de vie, on peut dire. Elles sont construites socialement, ça, on l'a vu. Et puis, elles sont construites socialement, oui. Donc, cette construction sociale, elle est à la fois matérielle et idéologique. Ça passe par une série de représentations, de valeurs, de discours, etc. Et puis, elles vont être, on va pouvoir les appréhender historiquement. Il s'agit pas de quelque chose d'immuable ou de mécaniste. Tout est histoire, c'est périodisable. Donc appréhendable historiquement, hiérarchique et arbitraire, hein, puisque on voit bien avec les recherches scientifiques un petit peu datées qu'on a quand même pu comprendre que ça n'avait pas de sens d'établir une hiérarchie entre les hommes et les femmes de la même façon que sur le racisme, bien évidemment. Et puis, finalement, qu'il s'agit aussi d'un rapport de pouvoir. Donc voilà, un tas de tous ces aspects des rapports sociaux de sexe, aboutissent aussi à permettre aussi de penser, on va le voir là maintenant, le dépassement de cette bicatégorisation de sexe, parce que le fait que ils soient consubstantiels, qu'ils interagissent avec les autres rapports sociaux, avec les rapports sociaux de race, avec les rapports sociaux de classe, ça va permettre de penser le changement, puisque on voit que les choses se construisent et ne sont pas figées. Je vous cite Danielle Pierre-Goat qui a conceptualisé tout ça. Elle dit bien que les rapports sociaux de sexe, ils vont apporter un contenu spécifique aux autres rapports sociaux. Par exemple, la virilité dans le milieu ouvrier, elle va pas dans le milieu ouvrier masculin, elle va pas du tout se jouer de la même façon que dans un milieu ouvrier bourgeois. Donc on voit bien que si on croise les analyses, tout ça n'est pas figé et tout ça peut donc bouger. De la même façon, tout ne s'épuise pas, les rapports sociaux de sexe ne vont pas s'épuiser dans le rapport conjugal et les rapports de classe ils ne s'épuisent pas non plus au travail, tout ça interagit. Par exemple, le rapport au corps ou le rapport aux enfants, tout ça, ça va jouer par rapport à ce qui se joue dans la sphère du travail, ce qui se joue dans la sphère familiale, ou bien tout ça peut, va interagir. Donc, juste pour résumer sur les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, je vous le redis rapidement, consubstantiel, historicisé, arbitraire, hein, c'est pas juste, antagoniste, hiérarchique, structurant et transversaux à l'ensemble des sphères sociales, des interactions humaines. Alors en quoi ça va permettre un dépassement? Si en fait on admet donc les pratiques, les représentations sexuées des acteurs sociaux, ils sont effectivement construits, qui se transforment dans le temps, qui se reproduisent sans être appui direct à la dimension biologique, puisque là on a pu voir au fil des approches que tout ça a été relativement déconnecté. On peut du coup se demander si ça a du sens de continuer à parler de deux types de sexe social, puisque ça se rattache. On voit bien que le sexe social femme et le sexe social homme s'est construit socialement, mais c'est pas forcément le biologique ne détermine rien en réalité. Donc puisque le biologique ne détermine rien, peut-être que on pourrait dissocier le genre et le sexe et sortir de cette binarité. Alors comment on peut répondre à cette question? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors il y a Bernard Saladin d'Anglure, ouais, qui en 92 écrit le troisième sexe, qui lui propose une espèce de réponse à ces questions. Alors pourquoi il parle de troisième sexe? En fait, il a étudié le travestissement des enfants chez les Inuits. C'est un anthropologue. Et en fait, il montre que en fait dans l'imaginaire des Inuits, l'idéal pour chaque couple, c'était de se reproduire à l'identique dans sa composition sexuée, c'est-à-dire d'avoir, comme on disait en France à une certaine époque, le choix du roi, un fils puis une fille. Et donc, même si en général les sociétés elles produisent autant de garçons que de filles, par contre dans une famille évidemment c'est pas toujours le cas. Il y a plein de familles où il y a plusieurs filles, plusieurs garçons. Et donc pour remédier à ça, en fait ils ont travesti certains enfants dans le sexe opposé pour qu'ils puissent avoir cette reproduction à l'identique. Donc il a observé ce travestissement des enfants qui se produisait donc pas que dans les pratiques corporelles et vestimentaires, mais aussi dans l'apprentissage de tâches de travail par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ce travestissement en fait il s'arrête à l'adolescence en principe. Sauf que lui, ce qu'il a observé, c'est que une fois adulte, les enfants du troisième sexe social, en fait, ils continuent à avoir un statut social particulier dans la société. Déjà, ils se marient souvent entre eux. Et puis, en fait, on leur attribue un certain nombre de qualités, entre guillemets, liées à ce qu'ils considèrent comme une capacité de chevauchement des frontières. Donc, notamment, on va estimer que, comme ils ont chevauché les frontières mâles, femelles, ils peuvent aussi chevaucher la frontière entre la vie et la mort. Enfin, voilà, ça va produire un tas de choses. Donc, en tout cas, ce genre de recherche vient interroger la binarité et introduire l'idée que ça puisse être intéressant de revenir au modèle du sexe unique. Bon, évidemment, pas sur un axe sacré, suivant un axe sacré, mais juste du coup pour appuyer aussi ce raisonnement qui vient contrecarrer la binarité, on a aussi du coup des recherches scientifiques un peu qui viennent contredire la dichotomie un peu X, 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 Y, les recherches sur le génome humain, par exemple, elles montrent bien qu'en fait, il y a une multitude de, enfin, que c'est très fréquent qu'il y ait des karyotypes non standards, enfin, que les combinaisons chromosomiques, elles sont beaucoup plus complexes que juste XX, XY, et qu'en fait, il n'y aurait pas non plus qu'un troisième sexe au milieu. Il y a un tas de situations où même le sexe biologique n'est pas défini. Donc, tout ça vient aussi mettre en doute la pertinence et la réalité de cette binarité. Donc, ça va être l'intérêt, du coup, de penser le concept de genre, parce que le concept de genre, du coup, il va venir envisager les catégories de sexe suivant un continuum, en fait, du plus mâle au plus femelle, et non pas en rupture, d'accord ? Ça va être la version contemporaine, un peu, du sexe unique qui domine en fait le concept de genre, ça va être de dire que en fait, puisque c'est pas si évident que ça biologiquement qu'il y a une différence entre un homme et une femme, et puisqu'on construit et puisqu'on a vu qu'il y avait un tas de constructions sociologiques et historiques qui intervenaient, en fait ce dont on se rend compte c'est que le genre précède le sexe et pas l'inverse. Une preuve un peu concrète de ça, c'est que on va décorer la chambre en rose avant d'être sûr finalement qu'on va avoir une fille ou un garçon, mais déjà avant que l'enfant naisse, on va définir de quel genre il devra être, rien qu'en sachant que c'est un homme ou une femme. Donc on voit bien que finalement ça précède la réalité, l'effectivité du sexe biologique, puisque ça précède même la naissance. Et donc l'aboutissement des rapports sociaux de sexe sous le concept de genre, ça va être d'envisager le genre comme un système de relations sociales qui va créer le sexe, qui est à l'origine de la bicatégorisation sexuelle. Et donc qui va diviser significativement les catégories de sexe. Et donc c'est cette division systématique qui fait sens et qu'on peut voir d'un point de vue biologique. Donc, dans la prééminence du genre sur le sexe, enfin, l'intérêt, le concept du genre tel qu'on l'entend dans les ouvrages dont tu as parlé tout à l'heure, cette acceptation-là du genre, elle préémine donc sur le sexe biologique. Et donc, en fait, toutes les études qui découlent de ça, donc qui partent de ce postulat que le genre détermine le sexe, elles vont être regroupées, on peut les regrouper sous le terme d'approche radicale ou constructiviste, y compris et le matérialisme aussi s'inscrit quand même dans cette logique-là. Donc il s'agit bien en fait de comprendre le genre comme un système d'organisation globale, c'est ça l'apport de ce concept, un système global d'organisation sociale qui va donc opérer une bicatégorisation radicale de l'espèce humaine à partir de différences biologiques objectives, mâles ou femelles. Et qui va donc traduire cette différence biologique dans toutes les dimensions de l'expérience sociale, pratique, représentation, croyance, suivant une logique de hiérarchisation qui va être plus ou moins implicite. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de dire de nier que les humains ils possèdent tous et toutes les mêmes attributs génitaux, mais il s'agit de questionner comment tout ça advient, comment cette hiérarchisation elle s'opère. Comment cette bicatégorisation, elle s'opère. C'est ce qui permet de pas nous cantonner dans une catégorie et pas non plus cantonner les hommes dans une catégorie, de dépasser aussi l'essentialisme. Voilà. Alors juste pour donner une application pratique à ça, un des moyens donc de penser le genre et donc de le dépasser, le but de tout ça, c'est de pouvoir du coup envisager le changement. Une application concrète, par exemple, ça pourrait être de remettre en cause l'inscription de la mention du sexe dans l'état civil. Ça peut paraître pas grand-chose comme ça. En fait, ce serait vraiment une perspective, une mesure assez révolutionnaire par rapport à tout ce que je vous ai un petit peu présenté aujourd'hui. Parce que, par exemple, le mariage, il aurait plus de fondement. Il serait sapé d'une de ses bases vraiment fondamentale s'il n'y avait plus la mention du sexe civil. Ça ferait aussi un sacré obstacle à l'homophobie. On déconstruirait un peu l'allant de soi et la séparation nette hétéro-homo. En tout cas, ça ferait obstacle à tout ça. Ça permettrait aussi d'entériner les nouvelles formes de communauté humaine ou des formes de famille, comme par exemple, qui sont pourtant vraiment une réalité presque majoritaire aujourd'hui, comme par exemple les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles homoparentales. Enfin, vous voyez, en fait, si on sort un petit peu de ça, juste avec une mesure, en fait, on met vraiment à mal tous les, on mettrait vraiment à mal tous les fondements, en tout qui nous séparent, enfin qui crée, qui fige ces deux catégories de façon hiérarchique, d'un point de vue symbolique. Voilà, ça permet rien qu'à partir de cette mention du du sexe dans l'état civil, de questionner, de remettre en cause beaucoup de choses. Et puis aussi, ça permettrait de dépathologiser les personnes trans ou les personnes qui juste ne sont pas, ne correspondent pas exactement au modèle dominant et à cette binarité dominante, et qui donc, sans qu'elles soient sans cesse renvoyées à leur genre initial ou obligées de subir un tas d'opérations pour répondre à ce qu'il faudrait, entre guillemets. Juste pour finir, après on peut discuter, une petite mise en garde. L'intérêt de tout ça, c'est quand même de toujours rester dans un va-et-vient. L'intérêt de ce concept, c'est donc toujours de se dire que l'état actuel des choses, c'est un système hiérarchisé, un système hiérarchisé et donc oppressant. C'est la réalité actuelle. En même temps, il y a une possibilité et une certaine réalité de résistance à tout ça. Par exemple, il y a des socialisations alternatives. Il y a des filles qui sont socialisées dans la socialisation secondaire comme des garçons. Et réciproquement, on observe ça quand même. Ça arrive, les choses, elles bougent. Donc, en gros, dans l'idéal, ça devrait nous être indifférent d'être homme ou femme, ou d'être homo ou hétéro. Et parfois, heureusement, même souvent, on y parvient dans nos pratiques, dans nos militances, dans nos relations humaines. On sent que c'est indifférent qu'on soit des hommes et des femmes, même dans certains milieux professionnels, etc. N'empêche que quand on est perçu comme une femme, on a quand même 10 fois plus de chances d'être victime de viol, d'être victime de violences conjugales ou de subir la précarité économique. Donc voilà, je dis ça de façon un peu schématique, juste pour dire l'intérêt, c'est d'être toujours dans le va-et-vient, de penser ça, de s'approprier un petit peu ces outils d'analyse pour tenir compte d'un système inégalitaire et de la réalité d'oppression et de système d'attitude qu'on a un peu imprégné, tout en admettant le changement et en reconnaissant, en validant le changement. Voilà.